Première Pierre, une plongée à la découverte du parcours des acteurs engagés pour la ville durable. Une émission originale d'Ecopolis sur Bâti Radio. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Première Pierre. Aujourd'hui, comme acteur engagé, je reçois Nicolas Luton. Bonjour.
Bonjour Bernice.
Vous êtes cofondateur associé de Eode Ingénieur Conseil. Alors, on va parler avec vous de votre parcours et on va peut-être commencer par votre renaissance, puisque c'est comme ça que vous l'avez appelé. Vous avez changé de vie.
Ah oui, j'ai changé de vie. Alors, je ne sais pas si on peut l'appeler renaissance. En tout cas, on peut l'appeler une naissance professionnelle. En tout cas, un aboutissement ou une révélation professionnelle. Moi, je l'appelle souvent, en fait, coming out environnemental. C'est-à-dire que, à un moment, à une quarantaine d'années, après avoir fait 15 ans d'exercice professionnel dans le secteur des télécoms, j'ai décidé que, en fait, finalement, il fallait que je fasse autre chose. Il fallait que je fasse quelque chose de ma vie avec l'environnement. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai décidé de tout reconstruire autour de ça. J'ai remis beaucoup de choses à zéro après ce parcours de 15 ans dans les télécoms. Et j'ai décidé de faire de ma vie, effectivement, ma vie professionnelle, de la mettre au service de l'environnement et de la construction, d'ailleurs. Les deux en même temps, en fait, l'environnement et la construction.
Alors, comment on a envie de faire quelque chose pour l'environnement quand on est dans les télécoms?
Ah, c'est un grand écart d'ailleurs. En fait, au moment où j'ai commencé à avoir cette idée, je me souviens que les personnes que je consultais pour essayer de m'aider à trouver un chemin pour ça me disaient que c'était un petit peu comme changer de secteur en même temps que changer d'activité. C'était un petit peu comme sauter en parachute sans parachute d'un avion. Donc, je me doutais déjà que c'était difficile. Et en fait, dans une approche un peu technicienne, on va dire, une approche d'ingénieur, je me suis dit, je vais mettre tous les atouts de mon côté, je vais me reformer au secteur de l'environnement, à l'ingénierie de l'environnement. D'abord, j'y suis allé un peu par petites touches, c'est-à-dire que au départ, j'ai essayé, depuis les télécoms, de m'intéresser à tout ce qui concernait dans l'informatique et les télécoms, les histoires qui étaient liées au territoire, les bâtiments connectés, par exemple, les parkings intermodales, et essayer d'approcher, en fait, d'aller vers des secteurs où l'informatique pouvait s'appliquer aux bâtiments. Puis, en fait, ça suffisait pas. Ça suffit pas pour faire une transition, pour passer dans un autre secteur. Donc, finalement, j'ai un peu brutalisé ce schéma-là et en décidant de me reformer dans une merveilleuse école qui s'appelle l'ICIGE, donc à l'École des Mines, un master en développement durable où j'ai réappris tous les fondamentaux de l'ingénierie de l'environnement.
Et comment vous avez, justement, comment ça s'est fait? Comment vous avez eu le déclic? Alors déjà, le tout premier déclic, comment, à quel moment vous vous êtes dit, voilà, mon métier, je suis plus en phase peut-être avec ce que je fais, parce qu'il faut être en phase pour aller vers les métiers de l'environnement, de la transition écologique. Quel a été le déclic? Et après, le deuxième déclic pour les études, pour la formation?
Oui, le déclic, c'est assez étonnant d'ailleurs, parce qu'en fait, je suis allé vers le développement durable, non pas par l'environnement, mais plutôt par le social. Je me suis aperçu, en fait, en pratiquant beaucoup d'informatique, depuis ma toute jeunesse d'ailleurs, en fait, je faisais beaucoup d'informatique, et je mélange les deux, informatique et télécom, c'est des domaines très similaires. Je me suis aperçu qu'on me sollicitait beaucoup, dans mes compétences d'informaticien de l'époque, pour expliquer les problématiques, réparer les ordinateurs, etc. Et en fait, je me suis aperçu que beaucoup de personnes âgées pouvaient pas trop souscrire au monde dans lequel on était, où commençait à émerger, c'était dans les années 94, et puis après, jusque dans les années 2000, commençait à émerger des tas de solutions qui se passaient par Internet. Et en fait, pour beaucoup de personnes âgées, c'était assez difficile d'accéder à ces sites. Et je me suis dit, en fait, on a un problème intergénérationnel. On a un problème, en fait, de solidarité entre les générations, de comprendre, de réussir, en fait, à fournir des services à des gens que, finalement, on déconnecte de plus en plus de la réalité du monde avec ces couches de virtualité, ces services virtuels, etc. Et je me suis inquiété de savoir comment on pouvait continuer à faire, en fait, en termes d'informatique, des solutions qui restent accessibles et compréhensibles. Et au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte, je pense que ça, c'est pour vraiment parler de l'élément déclencheur, que on n'arrivait pas très bien à réconcilier les deux. Donc on pouvait très bien continuer dans la virtualité. D'ailleurs, on le voit aussi dans le monde actuel, il y a beaucoup beaucoup de virtualité, même des espaces où les enfants peuvent rester complètement dans le virtuel sans jamais redescendre dans le réel. Il y a une sorte d'inversion aujourd'hui, en fait. Autrefois, on passait du réel vers le virtuel avec les jeux. Aujourd'hui, les jeunes générations sont très largement dans le virtuel et de temps en temps, elles redescendent sur Terre. C'est assez intéressant comme problématique parce que finalement, que faire dans cette situation-là? Dans une technologie qui est extrêmement compliquée pour laquelle c'est assez épuisant finalement de se maintenir à jour, si ce n'est que en fait revenir à du concret, revenir à des choses concrètes. Et c'est, je pense, l'élément déclencheur pour moi, c'était peut-être la complexité des systèmes informatiques qui étaient obsolètes au bout de 6 mois, qui m'ont amené à dire bah il faut que je fasse quelque chose de beaucoup plus concret. Et puis dans les choses beaucoup plus concrètes, j'avais aussi on va dire dans l'enfance, mais mes parents ont toujours eu énormément d'attention aux vivants. De par leur formation, mais aussi de par leur approche, leur relation au monde. Même à 80 ans passés, ils vont encore aller voir, sur un voyage de 4 jours, observer des grues en pleine nature. Donc, je pense qu'ils m'ont donné cette attention à ce qui nous entoure, mais dans le monde réel. Donc, peut-être que j'ai atterri à ce moment-là, en fait, en me disant, il faut que je revienne sur ces choses-là qui apportent beaucoup plus d'émotions peut-être concrètes, plus durables, plus satisfaisantes dans l'échange avec les autres, dans des choses qui sont moins artificielles, qui sont pas apportées par une communication virtuelle ou technique.
Et est-ce que peut-être vous avez dit aussi un rôle peut-être plus responsable par rapport à la planète, une responsabilité?
Alors je pense que c'est une vraie question que se posent beaucoup d'ingénieurs environnement. La question effectivement de ne pas surconsommer, mais ça veut dire quoi le sur en fait dans nos sociétés, même lorsque on a une vie tranquille, on est déjà des gros consommateurs puisque je vais pas répéter, mais les sujets carbone, on sait qu'un Français moyen il consomme 10 tonnes de CO2, qu'il faudrait revenir à 2. Donc quoi qu'il arrive, en fait, on est déjà dans une surconsommation. Donc on peut faire des tas d'efforts à titre personnel pour effectivement réduire son empreinte. Ça fait partie des gestes, mais je pourrais dire ça fait presque partie d'un savoir, d'un mode de vie. Faire du vélo, c'est aussi pour soi-même, c'est très sympathique. L'été, l'hiver, c'est un peu moins, mais dans les villes, lorsqu'elles sont un peu aménagées pour, c'est un vrai plaisir. On découvre la ville, les monuments, etc., d'une manière tout à fait bien plus agréable. On supporte toutes les émotions qui sont liées à la chaleur, au froid, etc. Donc, en fait, tout ça, c'est vraiment des choix en fait de vie. Alors, on peut les amplifier si elles nous plaisent et qu'on a envie, justement, si on a une certaine forme de conscience, on peut les amplifier. Mais pour moi, c'est pas du tout, comme on entend parler parfois politiquement, c'est pas du tout punitif. C'est un choix de mode de vie dans la sobriété pour être au contraire beaucoup plus dans l'échange avec les autres, beaucoup plus dans l'émotionnel d'expérience, enfin de relations, de rencontres. De rencontres aussi avec l'art, avec l'architecture, avec la beauté, en fait. Voilà, je pense que du coup, il y a quelque chose d'un peu faux dans l'idée de vouloir sauver la planète par son action personnelle, parce que certes il y a des leviers, mais il y a surtout beaucoup beaucoup plus d'effets qu'on peut faire collectivement. Et dans le collectif, bah finalement c'est tous nos métiers, dans les métiers des élus, dans l'activité des élus, il y a des choix de systèmes ou d'organisations collectives qui peuvent influencer. Le bâtiment en fait évidemment très bien partie, le territoire, toute l'organisation du territoire, et c'est une fois qu'on a levé tous les leviers qui sont possibles dans l'aménagement durable, dans la construction durable, que en gros, ensemble, on peut s'organiser pour être sobre, en fait, individuellement. C'est par ce biais-là que ça marche, finalement. C'est pas juste par soi-même essayer de... Bien sûr, il y a des tas de choses qu'on peut faire facilement, ne pas manger de... moins manger de viande, des choses comme ça. Voilà, c'est ça,
Alors là,
l'articulation.
Vous parlez de gestes dans la vie de tous les jours. Vous avez changé radicalement de carrière. Est-ce que ça s'est accompagné de changements dans votre vie personnelle, justement?
Vous y revenez, en fait. Hein, vous y tenez à ça. Moi, je pense que oui. Alors, obligatoirement, parce que quand on porte un métier, alors, il y a ce qu'on veut incarner, ce que j'ai un peu décrit là. C'est vrai que j'ai fait ce changement personnel. Peut-être parce que je me sentais pas forcément capable de le faire, ce changement professionnel, parce que je me sentais pas forcément capable de le faire personnellement. J'ai des très bons amis justement de la promotion de l'école d'ingénieurs qui ont eu tous des parcours très très différents en fait, mais toujours en lien justement avec ce rapport au monde, je pense. J'ai eu des amis qui se sont mis à vivre à Paris avec un enfant naissant sans frigidaire, en allant faire le marché tous les jours pour essayer d'éviter d'avoir le maximum d'impact. Ils l'ont fait. C'est possible, mais je sais pas comment on l'incarne. Moi, je savais pas comment faire ça, en tout cas. Donc, certains, lorsque je dis ça, me disent, ouais, mais c'est un peu injuste de dire que finalement, j'ai une voiture, je l'utilise, j'ai un certain nombre d'impacts, je voyage aussi, loin, j'essaie de limiter ces déplacements lointains, mais en fait, ils m'apprennent des choses aussi, donc, il faut essayer de trouver une cohérence personnelle dans tout ça, mais surtout, mon envie, c'était d'avoir un impact dans mon activité, finalement, dans l'activité. Dans le secteur du bâtiment, on peut avoir 40 ans de 100 personnes, de 100 budgets carbone de Français moyens sur une opération. Donc en fait, c'est la démultiplication de cet effet qui me motive et qui m'a amené justement à choisir de faire ça parce que j'allais avoir plus d'impact. C'est peut-être un raisonnement d'ingénieur, hein, de faire le maximum d'effets avec le minimum d'efforts, en fait, finalement.
Alors, vous faites cette formation. Comment ça se passe?
C'est une formation. Alors, l'ICIGE, c'est la formation Master Ingénierie de l'Environnement de l'École des Mines, qui en est à sa 31e année, je crois. Cette année, 31e promotion. Basé sur les fondamentaux de l'ingénierie de l'environnement. C'est beaucoup, beaucoup de domaines, l'ingénierie de l'environnement. Parce que souvent, en fait, on visualise les petits oiseaux, la biodiversité, l'écologie. Mais finalement, il y a les sujets de la pollution, des pollutions des sols. Comment on fait pour rendre sain un sol qu'on a pollué de manière industrielle, par exemple? Ou à l'inverse, c'est un peu les mêmes techniques d'ailleurs que l'extraction pétrolière, donc c'est assez intéressant comme activité. Ce que je voulais dire, c'était que bien au-delà de tous les enjeux techniques, tous les domaines de l'ingénierie de l'environnement, il y a un gros sujet de comment amener les gens à changer. Se rendre compte qu'un problème qui est parfois d'origine technique, mais il est d'origine technique à un moment donné, ou il ne l'est pas à un moment donné, il le devient bien plus tard. Le problème de l'amiante, pendant très longtemps, c'était un bon isolant, en fait. Voilà. Et c'est que très longtemps après que, à la fois la loi, donc la justice, on va dire, la société, à travers des maladies qui émergent, qui sont plus ou moins reconnus ou pas, se rend compte qu'il y avait un problème. Et c'est à travers, je crois que cette formation à l'École des Mines m'a beaucoup donné au niveau des controverses environnementales, c'est-à-dire le Centre de Sociologie de l'Innovation, le CSI, qui a été créé par Bruno Latour, permet de justement questionner cette approche, ce rapport au monde que les ingénieurs environnement ont, qui est bien au-delà de l'aspect technique, l'aspect réglementaire, l'aspect des conséquences vraiment que ça a sur la santé des gens, le fait de convaincre des lobbies qui s'installent, qui sont légitimes en fait à un moment donné, parce que une activité est lucrative et que quelques années après on s'aperçoit qu'elle elle est maladive, elle engendre des maladies. Et ben tous ces éléments là, ce sont juste des faits en fait. Les observer et comprendre comment ils s'articulent pour essayer de comprendre que maintenant qu'on est en 2023, et ben finalement on va subir peut-être ces phénomènes-là sur des enjeux qu'on ne visualise pas encore complètement, et ben vous comprendre quelle est l'articulation d'un groupe de personnes, d'une société autour de ces enjeux-là, ça permet d'apprendre comment faire pour faire rentrer dans un monde qui ne l'a pas encore capté, l'enjeu environnemental dans les pratiques. Mmh. Et ça, c'est en fait c'est des tas de leviers qui sont. Je m'exprime comme un ingénieur, mais c'est des tas de leviers qui sont très liés plutôt à des capacités de conviction, des capacités d'expression, des capacités, on va dire, d'observation et puis aussi de dialogue, parce que il n'y a pas de vérité sur les enjeux techniques. Bien sûr, on a des vérités, des chiffres. Mmh. Mais après, sur la vérité de la transformation de la société, c'est que des efforts individuels, de groupe, de conviction. Et puis surtout, il ne faut pas s'arc-bouter du tout. Alors, je fais un lien avec le sport qui m'anime depuis 12 ans. Je pratique l'aïkido. Et en fait, dans l'aïkido, il faut absolument se défendre. C'est un art martial non violent. Il faut se défendre en n'ayant jamais aucune ouverture, c'est-à-dire en fait en fermant tous les risques que la personne qui a envie de nous agresser puisse réussir à le faire. Et en faisant ça, finalement, je me suis rendu compte que dans ce sport, finalement, c'est un peu le même exercice en termes de construction durable ou en termes d'environnement. Il y a beaucoup d'arguments qui sont tout à fait recevables dans les contextes dans lesquels on travaille, mais réussir à les contrer, c'est-à-dire à comprendre pourquoi la personne dit que c'est beaucoup mieux une façade très très vitrée. Les architectes aiment beaucoup la transparence, mais que du point de vue de l'environnement, du changement climatique, de tas de phénomènes, il y a plein d'arguments pour dire mais en fait il faut quand même maîtriser ça pour le confort d'usage du bâtiment, pour le coût carbone du vitrage, pour le coût financier du vitrage par rapport à des parois pleines, etc. Donc en fait, il faut maîtriser tout un ensemble de domaines pour fermer tous ces sujets. C'est vraiment une question de fermeture pour pouvoir réussir à convaincre et le faire surtout avec le maximum de douceur, parce que dès qu'on braque quelqu'un, ça marche pas en fait.
Il y a de la pédagogie qui va avec.
C'est de la pédagogie et c'est aussi finalement une compréhension que l'enjeu de l'autre dans ces moments-là, c'est pas forcément le sien, puisque nous, les ingénieurs environnementaux, portent très souvent. Autrefois, très souvent, c'était un peu le prétexte vert à un objet de construction, et de moins en moins, c'est devenu ça. Il y a eu quand même un peu au fur et à mesure des années, une sorte de nettoyage du greenwashing, on va dire. Et puis aussi, il y a eu des faits qui font que beaucoup de personnes qui portent, par exemple, un enjeu financier, ont aussi traversé les canicules, ont aussi une conscience personnelle qui fait qu'elles se rendent compte qu'il faut faire attention aux ressources, qu'il faut laisser du territoire à de la biodiversité, y compris sur nos territoires. Et ces personnes, en fait, on peut les aider à faire elles-mêmes leur coming out environnemental dans leurs propres activités. Parce que finalement, ce terme que j'utilise, c'est simplement que j'ai décidé que ce serait le cœur de mon activité. Mais il y a plein de personnes qui ont une sensibilité environnementale, qu'elles soient des économistes de la construction, qu'elles soient des ingénieurs structures, que ce soit des acteurs de l'aménagement. Et qui, à titre individuel, se disent « Ah, mais quand même, j'aimerais bien faire quelque chose de plus que le cadre dans lequel on m'a inscrit pour que je raisonne, pour que le projet existe. » Et donc, ces gens-là, en fait, ils sont aidés par nous, finalement. Lorsque nous, on est concentré sur les éléments de valeur ajoutée environnementale qui peuvent exister, alors on les aide elles-mêmes à exister et puis à faire leur aussi leur chemin vers plus de conscience dans la durabilité de ce qu'ils exercent.
Alors, combien de temps dure cette formation et comment vous la vivez ? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ?
Alors, elle dure un an. Elle dure avec 6 mois de cours assez magistraux, avec beaucoup de personnalités que j'apprécie encore énormément. Je pense à Monsieur Peuportier qui a inventé le logiciel d'analyse de cycle de vie sur les matériaux dans l'acte de construire, c'est-à-dire ce qui permet de faire un bilan. Un bilan carbone et même un bilan carbone du bâtiment. Je pense à Monsieur Carassu qui a été un des premiers appuis puisque il a cherché beaucoup sur le domaine du coût global du bâtiment et de l'approche en fait de la valeur verte du bâtiment. La valeur verte du bâtiment, c'est finalement se rendre compte que un bâtiment qui est performant, il a plus de valeur que un bâtiment qui est moins performant. Certainement qu'aujourd'hui, 10 ans après, on peut se dire, il est aussi beaucoup moins à risque, il est beaucoup plus résilient dans le monde qui vient, avec des coûts énergétiques qui augmentent, avec des choses climatiques. Donc, d'abord, c'est beaucoup de domaines, enfin beaucoup de cours sur ces différentes dimensions. Pas spécialement d'ailleurs sur le bâtiment, mais là je vous ai cité les acteurs dont je me souviens, qui étaient dans le secteur du bâtiment. Et ensuite, c'est une imprégnation dans une entreprise. 6 mois, en fait, je pense que ça s'appelle la thèse professionnelle. C'est d'ailleurs soutenu chaque année. Je pense que c'est public à l'École des Mines et les personnes restituent ce travail qui est souvent un peu lié justement à ce que je vous disais tout à l'heure, la controverse environnementale et puis ce qu'ils ont appris.
Donc ça, c'est voilà, les personnes que vous avez rencontrées, vous avez toujours des liens avec elles, j'imagine. C'est ce qui vous a le plus marqué. Comment vous...
C'est mes héros.
C'est vrai, des héros.
Bah, en fait, c'est des. Je pense que c'est des personnes qui motivent parce qu'elles indiquent une certaine forme de direction ou de voilà, elles ont creusé en fait un sujet particulier. Alors, je pense que c'est la sensibilité de chacun qui en fait. Enfin, c'est mes héros, on va dire peut-être. C'est comme ça. Et du coup, en fait, elles aident à clarifier soi-même ce qui motive dans l'approche, enfin dans l'approche pour laquelle on a décidé de consacrer toute sa vie professionnelle. C'est des pionniers en fait, on va dire dans l'approche, parce que je pense que dans les années 2005-2010, on commençait. Bon, il y a plusieurs éléments, mais on commençait, on va dire, à bien vraiment se rendre compte que les certifications environnementales, toutes les démarches, on va dire, volontaires de l'activité durable dans le bâtiment, ça apportait un plus financier, d'où l'approche de la valeur verte, mais ça apportait aussi d'autres éléments extérieurs qui n'étaient pas forcément valorisés. Maintenant, on se rend compte que ces éléments extérieurs, qui n'étaient pas forcément valorisés, ils ont plus de valeur encore que dans un monde un peu plus tranquille, on va dire, encore une fois, du point de vue de l'énergie, du climat, etc., que le monde qui s'annonce à venir. Donc, du coup, c'était des pionniers dans le sens où, en fait, ils avaient bien indiqué que ces sujets-là, qui étaient des sujets pas forcément d'importance, était intéressant à creuser, à développer dans le cadre du monde qui change, en fait. C'est pas trop leur activité qui a changé, c'est le monde qui a changé un peu.
Alors après cette année, comment êtes-vous, dans quel état d'esprit êtes-vous ?
Alors après la formation, j'ai beaucoup de chance puisque au cours d'un salon, lorsque on cherche un nouvel emploi à n'importe quel âge, on rencontre des gens et on va dans les salons. Au cours d'un salon qui était à Polytech, forcément un salon adapté à la question environnementale, j'ai rencontré Laurent Gadelemas, qui est le président de EOD Ingénieurs Conseil et qui m'a embauché pour créer une agence à Paris. De cette structure donc que je porte encore, et je le remercie d'ailleurs de m'avoir choisi, parce que effectivement comme vous avez dit, la bascule entre les télécoms et l'informatique et l'environnement est pas forcément évidente, pour surtout pour qui embauche une personne qui a déjà une bonne expérience, mais aucune dans le domaine qui le concerne, aucune dans le domaine qui concernait EOD Ingénieurs Conseil à l'époque. Et donc, c'est une sorte de pari. Et ce pari, en fait, il est possible, effectivement, lorsqu'on travaille un peu en confiance, et en confiance, et en appui, et en solidarité. Moi, quand j'ai créé l'agence parisienne d'EOD, je me suis beaucoup appuyé sur l'expérience des quelques personnes qui étaient là, mais aussi sur l'idée qu'il y avait derrière moi déjà des personnes qui avaient une certaine expérience sur lesquelles, si j'avais pas de réponse immédiate sur la construction durable, je pouvais m'appuyer. C'est une forme de solidarité collégiale et que je trouve qu'on retrouve beaucoup dans le milieu environnemental et qui est très plaisante. Il y a beaucoup plus de coopération que de compétition. Parce que, sans doute, parce que le domaine technique est très très large et on peut pas être spécialiste du général. Il y a trop de domaines à couvrir. Et donc, forcément, on a besoin de l'expérience des autres, énormément, et c'est en s'appuyant sur celle-là. Surtout pour convaincre dans les conditions que je vous ai décrites avant, pour convaincre, il faut absolument être sûr de ce qu'on dit, parce que dès qu'on dit une bêtise, effectivement, contre des gens qui ont toujours fait l'acte de construire depuis 40 ans de la même façon, et qu'on vient, nous, on dit on va pas faire de la même façon, forcément, faut avoir un peu de retour d'expérience pour convaincre.
On vous sent très attaché à cette notion de collectif, on vous sent solidaire. C'est vrai que vous parliez en début d'émission de cette approche environnementale qui est beaucoup plus forte quand c'est la masse qui s'y met. Là, vous, durant vos études, vous parlez tout de suite de votre formation, vous parlez tout de suite des gens qui vous ont guidé, en fait, en quelque sorte, hein, qui vous ont montré la voie. Là, c'est vrai que vous vous êtes entouré de personnes compétentes. Ensemble, on est plus fort, on a plus de compétences. On vous sent vraiment touché par les liens avec les autres et oui, solidaire.
Sans doute que ces liens existent dans d'autres secteurs, mais en fait, l'attachement à l'environnement, c'est un attachement à ce qui nous entoure. C'est le soin aux autres. Et dans les autres, on met des tas de choses, en fait. On met les plantes, qui sont des êtres vivants. Elles n'ont pas tout à fait les mêmes capacités que nous, mais c'est des êtres vivants. On met notre univers, en fait, je veux dire l'air qu'on respire, toutes ces choses-là. Et puis on met les gens, en fait, forcément dedans. Et je crois que, en fait, ça m'inquiète presque, en fait, quand je vois des structures qui sont qui portent, en fait, des enjeux de développement durable ou qui revendiquent des démarches RSE et puis qui sont un peu brutales dans leur approche. Des salariés qui sont un peu brutales dans leur approche des règles de travail, en fait. Il faut aussi respecter les périmètres privés, les périmètres, les heures de travail, les choses comme ça. Enfin, dans le bâtiment, il y a très souvent les charrettes. On est très cadencé par rapport à, en fait, un certain nombre de rythmes, comme certainement dans d'autres métiers, mais celui-là particulièrement, je trouve, pour avoir expérimenté d'autres, les dates de rendu de projets architecturaux, c'est les jurys, en fait, tout ce qui est lié finalement aussi au rythme de la construction publique, qui engagent des dates vraiment totalement indéplaçables, entraînent forcément une certaine forme de stress quand on participe à ça collégialement, parce que chaque projet de construction est un acte collectif. Enfin, c'est sympa l'autoconstruction, j'adore ça, la construction paille et tout ça, mais c'est plus difficile à faire. Quand on a réalisé le lycée paille de Clermont-Ferrand, c'est, je crois, de l'ordre de grandeur 22 000 mètres carrés, ou 22 000 bottes de paille et 30 000 mètres carrés, c'est forcément pas une personne, c'est forcément des grands groupes, parfois des grandes équipes de conception d'architectes dans lesquels il y a des collectifs, donc c'est forcément des collectifs. Et je vois pas comment faire autrement que essayer de s'entendre collégialement bien, chacun sur ses intentions. Et donc s'entendre bien, bah oui, c'est respecter que le point de vue de l'autre soit pas complètement le même parce qu'il a d'autres enjeux, mais c'est aussi défendre le propre sien et puis essayer de convaincre un peu, mais sans animosité. Et d'ailleurs, en fait, je pense que un des gros phénomènes de l'acte de construire est que souvent il y a toujours plein de belles intentions au départ. Pas qu'environnemental, aussi architectural, etc. Et qu'au fur et à mesure que le projet se réalise, parfois on a réussi à l'amplifier, c'est assez rare, mais ça arrive, mais souvent, finalement, on se rend compte collégialement, on n'a pas suffisamment de budget, donc il faudra peut-être enlever des mètres carrés, oui, mais si on enlevait, en fait, les caractères environnementaux, si on réduisait la performance, etc. Il y a toutes ces négociations qui se passent, qui font qu'à la fin, parfois, même si on a été très engagé au début, on se retrouve avec des projets qui ont une dimension, pour ce qui me concerne, environnementale, juste un peu au-dessus de la réglementation, qui nous a bien aidé d'ailleurs, parce que les 10 dernières années, ça a énormément évolué du point de vue de l'environnement. Et ça, il faut le vivre au quotidien. Moi, je regarde toujours avec beaucoup de... J'ai un regard très bienveillant, effectivement, sur tous les collaborateurs, parce que c'est une vraie motivation, en fait, de porter ces sujets-là dans un contexte où, en fait, tout le monde ne porte pas ça. Enfin, les enjeux sont pas tous les mêmes. Et puis de se retrouver, du coup, 7 fois sur 10, avec un projet qui partait bien, et puis à la fin, on passe juste le contexte réglementaire dans lequel, finalement, un bureau d'études d'environnement... Il a porté sa pierre à la conception, à l'idée, il a ouvert les chakras des différents acteurs. Mais à la fin, on se retrouve avec pas l'idéal qu'on s'était fixé au début. Donc, ce qui fait que chacun des collaborateurs se retrouve souvent, en fait, avec, sur 10 projets, 7 qui sont réglementaires, 3 qui sont un peu mieux, donc ils sont contents, et puis 1 qui est super. On est parti du début à la fin, on a maintenu quelque chose de un bâtiment qui marche sans système, une construction alternative, terre crue, paille qui a très peu d'impact carbone, un bâtiment qui va être frais l'été naturellement parce qu'il est très ancré, il est géoclimatisé, on va dire, il est très ancré dans le sol. Ou une approche vernaculaire, enfin, il y a des tas de sujets comme ça. Voilà, ça c'est ce qui porte les ingénieurs environnement qui travaillent dans la construction durable. Et puis après, les petits compromis sont tout à fait acceptables. Mais ce qui fait qu'en fait, si on fait le bilan, à la fin, ils ont eu 7 projets dans lesquels ils sont investis. Bon, ça va. Mais ils en ont eu 3 qui sont un peu motivants. Donc ils en ont 2 fois plus qui sont pas motivants. Donc ça, il faut le garder, ça, en fait. Il faut garder cette énergie. Parce que finalement, nous, on fait tout pour que de plus en plus, il y ait un changement de bascule et qu'il y ait 7 projets vraiment motivants qui soient climato-compatibles, on pourrait dire les choses comme ça. Et puis, une minorité de bâtiments ou de territoires qui soient un peu abusifs du point de vue carbone ou du point de vue des gens, en fait. Je parle de carbone parce que c'est un peu le biais des ingénieurs environnement, mais on s'intéresse beaucoup à... Alors peut-être que là, il y a un lien avec ce que vous disiez tout à l'heure, mais On s'intéresse beaucoup. Moi, je pense qu'on fait de l'ingénierie sensible. En fait, on s'intéresse aux gens dans l'espace dans lequel on vit. Et c'est d'autant plus sensible que les choses changent, le climat change, les phénomènes extrêmes changent. Donc, le plus on réussit à construire des ouvrages qui sont agréables, dans lesquels on peut partager effectivement ensemble des choses, mais pour le travail, pour les activités, pour l'enseignement, etc. Et qui n'ont pas besoin forcément de ressources pour être agréables. Le plus on se concentrera sur justement le rendu final, le contexte, la lumière dans les bâtiments, le contexte qui fait qu'on se sent bien dans un espace, dans ce sous-sol, on se sent pas mal. Hein. Le plus finalement, on arrive aussi à concilier ce pourquoi le bâtiment est fait. Enfin. On fait des bâtiments, on crée des lieux de vie, des lieux. Et donc, si on reste bien là-dessus, on fait de l'ingénierie de l'environnement ou de l'ingénierie de la construction durable pour que les gens se sentent bien dedans sans énormément de machines. C'est-à-dire, en fait, en essayant de minimiser les systèmes de froid, de chaud, de... C'est parce que dès que ces systèmes marchent moins bien ou commencent un petit peu à être un peu en panne ou absent, en fait, on a tout perdu.
Alors, c'est très intéressant ce que vous dites. On est donc là, je reviens à votre parcours. Vous ouvrez l'agence EOD Ingénieur Conseil en Île-de-France. On est en quelle année ?
On est en 2010.
2010. Voilà, comment ça se passe juste après l'ouverture ?
Après, en fait, l'agence, il y avait déjà. J'ai repris en fait une agence qui était centrée sur la dépollution des sols, puisque les métiers d'ingénieur, des hauts d'ingénieur conseil, c'est pas que la construction durable, c'est tout ce qui est lié à l'ingénierie de l'environnement. Donc à l'époque, il y avait beaucoup de personnes qui s'occupaient de la dépollution des sols. Et puis, avec la mission de plutôt travailler sur le secteur construction durable. Et donc. Pour pouvoir, appréhender, en tout cas prendre le temps un peu d'acquérir quelques expériences, on a plutôt travaillé sur les sujets d'accompagnement des collectivités, donc de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, construction durable, tout en ayant déjà des personnes qui avaient beaucoup travaillé sur la maîtrise d'œuvre. Parce que, en fait, finalement, il y a deux métiers. Il y a un métier d'accompagnement des collectivités pour leur expliquer que c'est possible de construire différemment. Et qui est pas du tout, ou qui est pas tout à fait le même métier que réaliser des bâtiments performants. Apprendre en accompagnant les collectivités, c'est participer déjà à l'échange de retour d'expérience entre faire et faire-faire, entre faire et proposer de faire. Donc là, il y a quelque chose d'assez vertueux dans cet échange d'expérience entre ces deux univers-là. Et en même temps, ça consolide énormément le conseil qu'on peut donner à une collectivité qui nous demande « Est-ce que c'est possible de faire un collège passif en paille ?» en Île-de-France, la réponse est oui depuis pas tellement longtemps, donc c'est sympathique. Mais je suis perdu sur le sur le sens de la question. Mais...
C'était donc comment ça se passait à l'ouverture. Donc vous aviez repris une agence.
Donc c'était beaucoup plus sur l'activité de conseil.
Oui, d'accord.
Et pourquoi elle est extrêmement enrichissante ? Parce que je pense que dans la construction, je sais pas pour les autres, mais pour moi, un de mes moments préférés, c'est le jury, parce que on a conçu, on a imaginé, on a programmé pour une collectivité qui nous a exprimé dans le détail ses besoins un programme. Et puis un jour, le concours arrive et il est pris en charge par 4 ou 5 équipes qui ont toutes des créativités assez formidables, qui ont toutes des bureaux d'études environnement, des bureaux qui les orientent pour telle ou telle solution en fonction de ce que nous on a décrit. Et à la fin, on se retrouve avec 4 résultats très différents. C'est fabuleux ça. Oui. Ça, c'est vraiment un moment fabuleux. Et après, arbitrer ça, c'est aussi un moment très intéressant, parce que forcément, arbitrer ça du point de vue environnemental, c'est notre credo, mais l'arbitrer du point de vue de la fonctionnalité, du point de vue de l'esthétisme, du point de vue de son rapport au territoire, etc., c'est d'autres enjeux qui sont tout aussi importants, finalement. Et évidemment que nous, on va pouvoir arbitrer sur notre secteur, mais le projet qui va sortir de ça, faut quand même continuer, même si c'est pas le meilleur environnemental, par exemple, faut quand même continuer à la ramener sur ce qu'il aurait pu être dans, pour les suites du projet. Donc, je trouve que c'est un moment, le jury, vraiment un moment de découverte de la créativité humaine, de groupe, justement, et en même temps, beaucoup d'apprentissage, puisque c'est à ce moment-là qu'on découvre que, en fait, sur des concours de 15 jours ou aller un peu plus, quand même un mois de créativité, les gens arrivent à produire des choses qui sont très très différentes pour un même descriptif. Mmh. Et d'abord, en commençant par ça, du coup, on s'enrichit beaucoup, puisque pour chacune de ces missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, on voit 5 projets en esquisse, et puis après on suit un projet en APS. Et on voit les différences entre ce qu'on a demandé du point de vue environnement et puis comment ça se traduit au bout de quelques années par la réalité. Et on comprend que qu'est-ce qui a amené à ce chemin, c'est pas que des dimensions techniques, c'est des dimensions collégiales, de groupe, des arbitrages, des exigences de rapidité, etc., des complicités au sens positif du terme, entre une maîtrise d'ouvrage qui a bien compris qu'elle a à sa disposition, elle a choisi une équipe qui essaye de comprendre le mieux son problème, et puis en fait, c'est le dialogue qui va amener au meilleur projet. Ça, du coup, c'est vrai que c'est du coup des choses qui sont beaucoup plus humaines que et de l'ordre du collectif que des choses qui sont techniques. Ouais.
Et alors, de 2010 à aujourd'hui, comment a évolué EOD d'ingénieur conseil ?
Alors, dans l'évolution, alors maintenant on est 250 personnes, donc on commence à être...
Dans votre agence, hein.
Dans l'agence, ouais. Pardon. Ouais. On est 45, je crois, dans l'agence à peu près. Ça évolue régulièrement. Donc c'est un plus grand collectif. Mais surtout, au-delà de la partie construction durable, on est venu sur les sujets justement de quartier durable francilien, sur des sujets donc d'aménagement. Et puis, on a toujours continué aussi sur les sujets de biodiversité, de déchets, de gestion des déchets, etc. Et qui se sont de plus en plus développés en Île-de-France. Ce que je voudrais dire ou ce que je pourrais dire sur l'évolution, je ne sais pas trop en fait, comment répondre à votre question sur ça.
Ce qui a changé, ouais. Notamment ces dernières années par rapport à, ah oui. À votre
alors,
métier.
Ce qui a changé, c'est alors ce qui a changé pour EOD, c'est pas trop en fait, c'est pas trop pour EOD que ça a changé. Ce qui a beaucoup changé, c'est le contexte, c'est l'univers en fait dans lequel on évolue. L'environnement est passé d'une démarche assez volontaire autrefois à quelque chose de beaucoup plus obligé, à la fois dans les consciences, mais dans la loi aussi, en fait. Il y a quelques années, chez Ecopolis, je disais, si un ingénieur environnement de la police de l'eau, par exemple, c'est une entité qui existe, avait un pistolet à la ceinture, il serait peut-être un peu plus écouté. C'est une façon imagée de dire que quand un ingénieur de la police de l'eau vient mettre un PV parce que quelqu'un prend de l'eau, détourne de l'eau en plein été, etc. Souvent, il n'est pas écouté voilà. Et donc, en fait, cette question d'autorité vis-à-vis d'un domaine code de l'environnement, c'est plus gros que le code pénal. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de sujets. Cette question de l'autorité, elle est un peu plus passée dans les appréhensions à la fois des structures, des entreprises, des organisations. Peut-être des gens à titre individuel qui veulent plus trop franchir de limites. Et on va dire, elle s'est instaurée un peu plus cette préoccupation générale, parce que dans le mot environnement, les gens mettent plein plein de choses différentes. Mais nous, du coup, on est beaucoup plus aussi en capacité de dire, ce qu'on faisait autrefois par modélisation, par exemple, en disant en 2050, le bâtiment, bah, il va y avoir 100 jours pendant lesquels ça va être difficile de travailler ou de vivre dedans, du fait d'une mauvaise conception bioclimatique. Ça, c'était assez théorique, même si c'était modélisé, pardon, même si c'était modélisé. Maintenant, les gens l'ont vécu, en fait, déjà, une canicule ou deux. Donc, quand on le dit, ils le ressentent dans leur chair. Et en fait, quand on le dit, on est un peu plus écouté, on a bien moins besoin de convaincre. Et puis, du coup, on embarque aussi beaucoup plus de responsabilités, parce que les architectes qui ont conçu des bâtiments avec des risques, justement, de surchauffe, etc., maintenant, il y a des gens qui viennent les chercher, en fait, pour leur dire « Vous m'aviez promis que, mais non. » Donc ça, on va dire un peu, c'est plus le contexte, le changement, qui fait que les individus se rendent plus compte du fait que c'est pas juste, c'est pas les bisounours de l'environnement c'est un terme qui était employé autrefois. On n'est pas en train de parler des ours polaires, on est en train de parler de notre territoire, de nous dans ce territoire. Et puis sans faire de menaces ou sans faire de choses graves, simplement de notre rapport à dans quel territoire on va atterrir. Est-ce que ça va être complètement urbanisé, des îlots de chaleur partout et puis qu'on va crever de chaud, ou est-ce qu'on se dit, tiens, ça vaut le coup d'avoir quelques arbres, c'est aussi sympa pour des tas d'autres choses, pour les oiseaux, pour des tas d'autres choses. Voilà. Donc je pense que c'est plutôt ce rapport-là qui a changé, ce qui fait qu'on écoute un peu plus. On l'écoutait un peu autrefois, il fallait beaucoup de force de conviction, et maintenant c'est plus partagé globalement. Et il y a aussi plus d'arguments factuels pour dire on va plutôt faire comme ça.
Nicolas Luton, l'émission touche à sa fin. Avant de nous quitter, alors il y a une tradition dans Première Pierre, c'est de nous donner un livre qui vous a particulièrement marqué. Alors un livre que vous avez lu ou que vous allez lire. Est-ce qu'il y a un livre qui vous vient à l'esprit ?
Alors... Il y a beaucoup de livres qui m'ont beaucoup marqué et je continue d'en acheter beaucoup et pas de réussir à tous les lire par une sorte de boulimie, justement de connaissances sur ces domaines-là, sur les domaines de l'urbanisme et tout ça. Et du coup, il y a aussi une vision un peu poétique que j'apprécie. Dans la vision du monde, en fait, dans ce rapport avec notre terre. Et je l'ai pas lu encore, le livre, du coup.
Vous l'avez acheté.
Je l'ai acheté. C'est le livre d'Aurélien Barreau, qui s'appelle L'Hypothèse K. Je crois qu'il nous plonge dans un monde, une façon de vivre, de voir le monde très différente et dont on a besoin un peu pour respirer, dans toutes les démarches qu'on vit aujourd'hui, en fait, dans toute l'accélération de ce qu'on vit aujourd'hui.
Donc on note cette référence. Et seconde tradition, et on terminera avec cela, une chanson importante, pareil, qui vous a marqué. Alors je crois que c'est Étienne Dao.
Oui, le premier jour du reste de ta vie. Voilà.
Peut-être en référence à votre parcours.
Oui, en référence avec mon parcours, mais aussi j'ai observé, ça m'a étonné en fait quand j'ai découvert cette chanson. Ce qui m'a étonné, c'est que c'était la chanson la plus écoutée d'Étienne Dao, et que au-delà de ce qu'elle dit, avec un peu de légèreté, il y a beaucoup de douceur dans cette chanson et en même temps beaucoup d'élan qui donne envie en fait de changer. Donc ça c'est chouette.
Elle est entraînante. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas Luton, pour ce bel entretien.
Merci à vous.
À très vite.
Tout le monde, restez debout, mais à quel prix ? Sacrifier son instinct et ses envies. Les plus essentielles. Mais tout peut changer aujourd'hui. Premier jour du reste de ta vie, plus confidentiel. Pourquoi vouloir toujours plus beau ? s'effondre en quelques secondes. Sache que du berceau à la tombe, c'est dur pour tout le monde. Rester debout, mais à quel prix? Sacrifier son instinct et ses envies les plus confidentielles. Mais tout peut changer aujourd'hui, et le premier jour du reste de ta vie.
Première Pierre, une émission à réécouter et télécharger sur le site de Bâti Radio et sur toutes les plateformes de streaming.